C'est le train de la vie qui nous emporte. Le voilà qui s'avance et met nos sens en effervescence. Une avancée irrésistible, un mouvement sans fin. L'élan vital en quelques notes, la pulsation fondamentale. La vie, tout simplement. Cramponnez-vous au bastingage, voici l'essence du swing, de ces essences aux parfums enivrants qui font tourner les têtes et libèrent les corps, car ils pénètrent tous les sens. Voici l'essence du swing. Du swing dans tous les sens. Un extraordinaire déroulé de saxophone, celui d'Illinois Jacquet, qui, en un solo intense, condense toutes les facettes de son style étincelant. Puissance, expressivité, invention. C'est un tourbillon sonore venu du Texas qui nous emporte, alimenté par une succession de courtes phrases dynamiques et des notes de densité variable qui créent une intensité rythmique absolument irrésistible. Cette veine texane est un gisement sur lequel le sax moderne a pris ses assises. De fortes personnalités musicales ont illustré les quatre as du sax, du Tex-Sax, qui savait faire vibrer la hanche. Nous allons passer une heure en leur compagnie. Vous êtes avec Mr. Lucky pour une spéciale, l'essence du swing dans tous les sens, qui leur est consacré. Énième version d'un solo du sax ténor Illinois Jacquet, une empreinte inoxydable gravée dans la mémoire du jazz, une matrice qu'il décline ici en 1968 sous le nom de Bottom Blues, un démarquage de Fly Home, le thème fétiche de Lionel Hampton, enregistré plus d'un quart de siècle avant. En 1942, son célèbre chorus avait ouvert la voie à toute une génération de sax ténors qui vont s'engouffrer dans la brèche et mettre en œuvre une esthétique où l'instrument va transposer les modulations de la voix humaine, hurlements, cris, gémissements, plaintes, vigueur, vitalité, exultation et allégresse. Cette forme d'expressivité, héritée du blues âpre et rugueux du Texas, va s'imposer dans le big band avant de constituer un background sonore pour les bluesmen. Selon Jacquet lui-même, cette façon particulièrement tonique de phraser devait satisfaire aux exigences de Lionel Hampton qui attendait de son big band qu'il produise un véritable feu d'artifice sonore. Galvanisé par un contexte de swing survitaminé, le tout jeune Illinois Jacquet, à peine âgé de 19 ans et spécialiste du saxo alto, a laissé apparaître un talent qu'on ne lui connaissait pas. Son passage au sax ténor, pour l'occasion, fut un coup de maître. Tenu de prendre un solo, il fait appel à son inspiration du moment en laissant parler sa culture musicale et en prenant appui sur le fameux solo d'Herschel Evans, le ténor de Count Basie dans Dokin' Around. De son propre aveu, il a suivi les conseils de son chef de pupitre, Marshall Royal, qui s'est écouté lui-même, tout en reconnaissant la part d'impalpable qui accompagne la création artistique. Quelque chose était en moi à ce moment-là, a-t-il confié. Tout s'est mis en place, sans que je sache pourquoi. C'est donc en puisant dans le creuset texan que le jaillissement créatif d'Illinois Jacquet s'est libéré pour développer une forme d'expressivité qui a fait date. Bien qu'originaire de Louisiane, c'est dans cet état du Texas qu'il a trouvé ses assises musicales, tout jeune encore, lorsqu'il jouait dans l'orchestre familial. Son père, Gilbert Jacquet, s'était marié avec une Indienne qui avait donné à l'un de ses fils le nom de Illiniwek, qui signifie « homme supérieur ». Américanisé en Illinois, ce nom allait en effet devenir célèbre et les prémices s'étaient manifestées par un talent précoce dès l'âge de 3 ans où il dansait des claquettes et ensuite il est devenu batteur. Ce sens du rythme lui restera quand il passera au saxophone alto qu'il pratiquera aux côtés d'un certain Arnett Cobb intégré à l'orchestre familial. Ils se retrouveront tous les deux en 1936 dans l'orchestre de Milton Larkin, l'un des groupes territoriaux les plus prisés du Texas. Programmé entre autres à l'Apollo Theater à Harlem, les membres les plus en vue de l'orchestre, qui s'étaient produits sur des scènes prestigieuses, pouvaient bénéficier de sa notoriété. Ainsi, en 1941, Arnett Cobb avait-il attiré l'attention de Lionel Hampton lorsqu'il souhaitait monter son propre big band après avoir quitté Benny Goodman. Sa femme Gladys, proche de celle de Cobb, lui avait suggéré de prendre le mari de son ami. Mais pour des raisons financières, ce projet n'avait pas abouti. Et c'est finalement vers un débutant au ténor que Lionel Hampton s'est orienté en permettant à Illinois Jacquet de graver la version fondatrice de Fly Home avec pour consigne, sic, de jouer comme Cobb. Ce dernier, donc, était tout désigné pour lui succéder dans l'orchestre et 2 ans plus tard, il gravera en 1944 sa propre version de ce thème fétiche, devenu Fly Home numéro 2. Cette nouvelle version permet à Cobb de se démarquer de son prédécesseur et de faire preuve de son talent d'improvisateur dans son style explosif et décomplexé qui lui a valu le label de « l'homme sauvage du sax ténor ». On l'écoute tout de suite.
Ha ha ha!
On vient d'entendre avec quelle maestria Arnett Cobb a relevé le défi de renouveler l'interprétation d'une matrice inoxydable du swing, tellement achevée qu'elle semble inaltérable. Les variations qu'il propose sont dans la dynamique d'un style qu'il a largement contribué à instaurer, ce style des ténors texans auquel peu de jeunes musiciens ont échappé. Dans les années 40-50, toute une génération de sax ténors a été séduite par le volume sonore, la puissance et l'émotion qu'il dégageait. Pendant 5 ans, Arnett Cobb a été pour Hampton un atout majeur en tant que compositeur, arrangeur et sax lead. Mais c'est surtout en tant que soliste, avec son style torride, qu'il a impacté l'orchestre, le seul big band en fait, qu'il ait jamais intégré. Et encore en deux temps, se permettant de décliner successivement les offres de Jimmy Lunceford et Count Basie. Avant de faire un autre choix, le Count avait tout d'abord pensé à lui pour remplacer en 1939 son sax ténor vedette, aux côtés de Lester Young, qui s'appelait Herschel Evans. Il venait justement de disparaître, et donc voilà, il fallait trouver un remplaçant. Alors Basie avait bien vu la filiation qui existait entre les deux musiciens, et en particulier cette tendance à se dégager de l'emphase et de la volubilité des sax new-yorkais de Fletcher Anderson, comme par exemple Coleman Hawkins, qui faisait preuve d'une grande invention mélodique. Dans la lignée d'Herschel Evans, les ténors texans avaient tendance à privilégier la concision avec des phrases très courtes, solidement charpentées, avec un maximum de densité. C'est en fait tout l'esprit du blues qui est privilégié, en donnant une part essentielle à l'expressivité dans une simplicité où chaque note est chargée d'émotion grâce à des modulations qui introduisent des variations d'intensité ou de puissance sonore. Rien donc d'étonnant à ce que son style ait été qualifié de Southern Preacher, tant il transpose sur son sax ténor des modalités expressives nées du blues et du gospel. Cet aspect brut et parfois sauvage qui fait hurler, crier ou se plaindre l'instrument en se dégageant de la phrase musicale pour recourir au stridence ou au grondement n'était guère attendu de la part d'un musicien précoce qui avait bénéficié d'une formation classique. Dans une ambiance familiale où sa grand-mère lui avait appris les rudiments du piano, il avait ensuite pris des cours de violon. Mais cet instrument ne pouvait guère trouver sa place dans une fanfare de son école, la Phyllis Wheatley High School, forte de 80 éléments. Aussi, sur les conseils du directeur, a-t-il adopté le seul instrument alors disponible, un sax ténor en ut, sur lequel il a fait ses premières armes. Dès l'âge de 15 ans, il fait ses débuts professionnels et tourne avec un orchestre régional, celui de Frank Davis, où il est immergé dans le contexte musical spécifiquement texan. Une étape supplémentaire est franchie quand il intègre en 1934 la formation du trompettiste Chester Boone, au rang duquel ont figuré des musiciens comme T-Bone Walker ou Eddie Winton, qui ont su faire fructifier leur patrimoine musical. Arnett Cobb restera d'ailleurs très attaché à son terroir et Houston sera sa base de repli après l'accident qui ne lui a pas permis d'avoir la notoriété qu'a connue Illinois Jacquet. Déjà très affaibli par une grave maladie en 1948, il avait cessé de jouer pendant 2 ans tout en restant très actif pour la préservation de son patrimoine musical. Mais il avait repris de plus belle, bien calé sur ses béquilles, en témoignant d'une ténacité et d'une énergie qui marquaient sa volonté de transcender son handicap. Sur scène, il n'a jamais montré le moindre signe de faiblesse et a toujours fait preuve de ce punch irrésistible dont témoignent quelques chefs-d'œuvre qu'il a gravés chez Lionel Hampton. On l'écoute maintenant dans un de ses solos impétueux où il partage avec le vibraphoniste la deuxième partie d'un classique du répertoire hamptonien, Air Mile Special. Thank you. un cheval de bataille du swing, les dynamiques variations d'Arnett Cobb, dans une interprétation particulièrement musclée. Il déploie son style caractéristique aux larges inflexions pleines d'intensité, qui sont autant de ponctuations rythmiques s'achevant brutalement par un silence annonciateur d'un nouveau départ. L'impact émotionnel ainsi provoqué repose sur une attaque incisive et une sonorité ample, mais qui peut faire dans la nuance aussi. C'est en fait tout l'esprit du blues qui est privilégié en donnant une part essentielle à l'expressivité dans une simplicité où chaque note est chargée d'émotion. Par un dosage maîtrisé du souffle, il crée des modulations qui introduisent des variations d'intensité ou de puissance sonore. L'air de rien, en refusant les postes successifs qui lui avaient été offerts dans les big bands, Arnett Cobb avait ouvert la porte à Illinois Jacquet et à Buddy Tight, qui avaient été choisis en deuxième main par Hampton et Bessie. Les deux chefs d'orchestre avaient trouvé dans l'école texane de quoi muscler la section des sax. Au cours des 5 années que Cobb a passé chez Hampton, il a gravé des chefs-d'œuvre comme celui que l'on vient d'écouter et, dans le même temps, Illinois Jacquet surfait sur la notoriété acquise avec son solo Flying Home. En lui demandant de jouer comme Cobb, Lionel Hampton lui avait donné le coup de pouce décisif que Jacquet a enrobé du mystère de la création artistique avec cette inspiration venue d'on ne sait où, à l'instant T, pour marquer un jalon dans l'histoire du sax ténor. Après son rapide mais décisif passage chez Hampton, il avait été remarqué par Cab Calloway qui mettait au point son big band avec la recherche de solistes de très très grande envergure que d'ailleurs il séduisait par de séduisants cachets. Bon, passons rapidement. Séduit par ce style flashy d'Illinois Jacquet, il l'avait choisi pour remplacer son sax leader, Chu Berry, qui venait d'être victime d'un accident de la circulation. Le chef d'orchestre avait perçu chez lui la fougue bouillonnante de son prédécesseur, associée au gros son tendre et rugueux de Coleman Hawkins, le grand maître du ténor d'alors, le tout bien assis sur l'héritage texan d'Herschel Evans. Avec un jeu beaucoup plus punchy, Jacquet s'inscrivait parfaitement dans cette formation d'un des artificiers du swing, dont la musique torride nous désintègre avec ses riffs dévastateurs, ses solos exacerbés et une puissance sonore poussée au paroxysme. Dans une période où la grève menée par le puissant syndicat des musiciens empêchait tout enregistrement, la présence d'Illinois Jacquet au sein du big band de Calloway nous est restituée par une retransmission radiophonique, une pépite que l'on écoute immédiatement, c'est le morceau « 105 in the Shade ». We'll be right back. miraculeusement préservé par une émission de radio. Ben oui, quelquefois la radio est parfois bien utile, ne serait-ce que pour ses archives, mais pour bien d'autres choses aussi. Alors donc, ce morceau nous fait entendre le sax surpuissant d'Illinois Jacquet, et qui a sa part dans le tsunami de swing provoqué par un orchestre survolté qui aura en 1943 les honneurs d'Hollywood. Il s'affirme comme le fer de lance d'un jeu venu du Texas qui va devenir un modèle à imiter. Nous sommes au cœur d'une évolution déterminante pour le sax ténor qui va transposer les modulations de la voix humaine avec un investissement digne des prédicateurs noirs. Vous êtes sur CFM Radio pour les sens du swing dans tous les sens, qui vous invite à une incursion dans le creuset texan en pleine ébullition qui va faire éclore une pépinière de talents. Privé d'enregistrement pendant la grève des enregistrements décrétée par le puissant syndicat des musiciens, Illinois Jacquet a bénéficié donc de diffusion de radio, mais aussi il a participé donc à la bande son de films à grand succès. Il est présent à l'écran dans le film Stormy Weather et il apparaît dans une version particulièrement tonique de Jumpin' Jive que nous avons déjà écouté dans une émission précédente. Après ce passage dans ce big band, Illinois Jacquet était venu se ressourcer à Houston dans un contexte familial. Là, il a retrouvé son frère trompettiste Russell Jacquet qui venait de licencier son orchestre. Donc fort d'une première expérience positive en Californie avec Lionel Hampton, Illinois convainc son frère de l'accompagner pour un deuxième séjour à Los Angeles. Il pensait pouvoir confirmer un premier succès dans un contexte où régnait pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc une grande effervescence musicale dans un environnement qui pouvait lui être favorable. Déjà, lorsqu'il n'était qu'un débutant qui cherchait son style, il avait pu s'inspirer du sax ténor Big Jim Wynne, originaire aussi du Texas, qui avait accueilli T-Bone Walker au milieu des années 30. Peu connu par le disque, bien qu'auteur du fameux Reba Bebop, qui a connu un succès extraordinaire, son orchestre s'appelait les Bobalibans. Eh bien, Big Jim Wynne revendique d'être à l'origine d'un style de sax très spectaculaire, tout en démonstration, où l'exhibitionnisme va de pair avec la puissance sonore et le recours au grognement ou aux stridences dont les saxophonistes hurleurs, les honkers, ont fait leur image. Les effets scéniques de ces prestations avaient retenu l'attention du producteur Norman Granz, qui avait vu chez Jacquet, donc, peut-être, quelqu'un qui s'était inspiré de Big Jim Wynne, et ce Norman Granz, ce producteur, avait convié à des jam sessions Jacquet, puisque donc il pouvait ainsi se produire dans des petits clubs et montrer ce qu'il savait faire. En 1944, donc, un concert de bienfaisance donne l'occasion à Granz d'élargir son public sur la scène du théâtre de Los Angeles, le Philharmonic Auditorium. Pour la première fois, une jam session est transportée de l'intimité d'un club à une grande salle de spectacle sous le nom de Jazz à deux philharmoniques. Parallèlement, Jacquet participera à une jam session filmée aux côtés de Lester Young dans l'un des plus beaux films réalisés sur le jazz, nominé pour un Academy Award appelé Jammin' the Blues. Nous réservons ces enregistrements pour la playlist dans la deuxième partie de l'émission et nous verrons que sous l'influence de Lester Young, Illinois Jacquet est capable aussi de s'assagir en donnant à son jeu de la fluidité. On l'écoute maintenant, confronté à Buddy Tay, qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, le remplaçant d'Herschel Evans dans l'orchestre de Count Basie où, de 1945 à 1946, il a gravé quelques chefs-d'œuvre. Voici maintenant Rockabye Basie, c'est Buddy Tay qui prend le premier solo de ténor et Illinois Jacquet qui prend le deuxième presque à la fin du morceau. Thank you. Avec un de ces duels de sax ténor qui était un peu l'image de marque du big band de Count Basie, devenu célèbre par les affrontements de style entre Lester Young et Herschel Evans, ce sont ici deux sax issus du creuset texan que Basie met aux prises. Le Count s'efforcera de maintenir cette dualité très productive jusqu'aux années 60, avec notamment les deux Frank, Frank Foster et Frank West, qui ont enregistré ensemble, mais aussi Eddie Lock Joe Davis et Jimmy Forrest, tous marqués par l'influence d'Illinois Jacquet. C'est à lui que revient d'avoir popularisé un mode opératoire qui procède par phrases courtes pleines d'énergie en transposant sur l'instrument la véhémence et l'expressivité des prédicateurs noirs. Elles sont poussées au paroxysme par le recours au registre grave et aigu du sax en frappant à plusieurs reprises la même note avec une intensité croissante qui met l'auditoire sous tension. Plus il s'agit, son compagnon de pupitre Buddy Tate se révélera un formidable joueur de blues et fera de l'efficacité d'Herschel Evans qu'il avait remplacé en 1939 et dont il était très proche son image de marque. Il a pu ainsi prolonger la confrontation des styles voulus par Basie pour devenir l'un des pivots de l'orchestre. Il a été associé tout d'abord à Don Byas qui avait remplacé Lester Young, mais il avait adopté la touche texane, venant ensuite Lucky Thompson et Paul Gonzalez avant qu'il ne parte chez Duke Ellington, pour finalement être confronté à Illinois Jacquet comme on vient de l'entendre dans une interprétation explosive. En fait, Buddy Tate a connu un peu la même aventure qu'Arnett Cobb chez Lionel Hampton, car dès que Basie a voulu monter son premier orchestre en 1934, il avait pensé à lui, mais finalement, l'affaire n'avait pas marché commercialement, et en 1936, pour un nouveau départ, Herschel Evans a pris le poste aux côtés de Lester Young. Dans la succession, Buddy Tate a fait un mix des deux styles, et pendant 10 ans, il est apparu comme un des solistes les plus en vue de Basie. Il intervient avec brio dans quantité de chefs-d'œuvre de cette période, considérée comme une des plus florissantes de Basie. Il atteint le summum à partir de 1944 avec la fin de la grève des musiciens et la reprise des enregistrements où il s'impose comme un des grands saxophonistes des années 40. Avec un jeu très élégant qui se caractérise par une sonorité diaphane à la façon de Lester Young et une forme de sophistication dans l'interprétation des ballades. Dans une expression à minima, faite d'agencement de notes douces et feutrées, il avait l'art du chuchotement et des intonations intimes en faisant preuve d'une maîtrise parfaite. Mais il excelle dans le jeu véhément façon Herschel Evans et ses longues notes tenues, fortement appuyées, dont il parsème ses solo, comme Arnett Cobb et Illinois Jacquet, il appose sa signature texane dans des interventions vibrantes où sa sonorité ferme et son vibrato chaleureux font merveille. Un exemple avec It's Sandman. C'était It's Sandman, un morceau qui met particulièrement en valeur Buddy Tate avec son solo très 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 enlevé et très bien senti de 64 mesures. Buddy Tate était né au Texas, à Sherman. Il a débuté sa carrière professionnelle à la fin des années 20 en intégrant des orchestres itinérants. Avec ses territory bands, comme on les appelait, il a parcouru le sud-ouest au cours des années difficiles qui ont suivi la dépression et avant que le swing ne décolle. Les effectifs de ces groupes qui écumaient la région n'étaient pas stables. Il a intégré successivement les formations de Nathalie, Terrence Holder, qui allait être repris par Andy Kirk, et ses orchestres qui ont vu passer des noms, promis un bel avenir, évidemment, ont été particulièrement formateurs pour Buddy Tate. Il s'était retrouvé aussi avec Herschel Evans lorsqu'il jouait dans l'orchestre de Troy Floyd à San Antonio. Il a donc été immergé dans un univers musical où des ensembles instrumentaux accompagnaient notamment des chanteuses de blues, et il s'est ainsi forgé une sensibilité particulière à cette forme d'expression. Le chanteur de Count Basie, Jimmy Rushing, en témoigne. Aucun sax ténor ne peut soutenir la comparaison avec Buddy Tate lorsqu'il s'agit de jouer le blues. C'est d'ailleurs dans les groupes qui accompagnaient les chanteurs qu'il trouvera refuge après avoir quitté le big band de Basie à la fin des années 40, au moment où les conditions économiques étaient trop pesantes pour les grandes formations. Seules quelques-unes ont pu rester à flot, comme celle de Lucky Millinder que Buddy Tate avait intégré avant de travailler avec le trompettiste Hot Lips Page et aussi son vieil ami le crieur de blues Jimmy Rushing. Finalement, il réalisera son projet de sédentarisation en s'installant à New York où il est resté pendant 25 ans en résidence au Celebrity Club de la 125 Avenue à Harlem. Avec un orchestre dont l'ensemble était constitué de transfuges de Cannes-Bézis, il y a maintenu la flamme de Kansas City, cet écho-milieu qui a vu l'éclosion de talents de saxophone venus du Texas. Mais aussi vrai que les trois mousquetaires étaient quatre, les trois compères, Jacquet, Cobb et Tate, ne peuvent être dissociés d'un quatrième acteur, bien oublié aujourd'hui, bien qu'il ait longtemps séjourné en France et joué un rôle important en tant que coach musical. Il a trempé dans le bain de Kansas City en jouant chez Jim McShane en 1943 et, comme Buddy Tate, il avait fait ses premières armes dans les orchestres territoriaux, pétris de l'esprit du blues comme celui de Nat House. Jamais il n'a abandonné ses racines et compte tenu de sa grande longévité artistique, il a été un de ceux qui a porté le flambeau pendant le plus longtemps. Au début des années 90, il apparaissait comme un des derniers survivants de ces sax ténors texans passés par Kansas City. Ils étaient familiers du blues orchestral qu'ils avaient contribué à populariser, musiciens polyvalents capables de s'exprimer dans les deux registres, celui du jazz et celui du blues. En 1990, à l'âge de 81 ans, on l'écoute s'exprimer avec la fougue d'un jeune homme dans « That's All ». Vous êtes sur CFM Radio qui vous propose de découvrir l'école texane du sax ténor. Nous venons d'entendre Al Singer, l'un des quatre as du Texas, auquel l'émission d'aujourd'hui est consacrée. Nous sommes au cœur d'une aventure musicale qui a vu de jeunes saxophonistes texans imposer leur style aussi bien dans les big bands que dans les groupes de blues des années 40 et 50. Leur gros son, leur puissance dévastatrice et leurs modalités expressives qui avaient recours au grognement et au sifflement ont fait de ces créateurs des modèles à imiter. Ils ont contribué à faire du saxophone ténor l'instrument dominant dans le jazz par l'étendue de son registre expressif, de la suavité et de la tendresse, jusqu'aux tempêtes sonores de solos rugissants dynamisés par une rythmique surénergisante. La deuxième partie de l'émission qui s'annonce va faire entendre ses sax hurleurs et honkers dans une série de morceaux qui va leur rendre hommage. Nous restons en compagnie de Holsinger, originaire de l'Oklahoma, qui dès la fin des années 30 avait été à la dure école des tournées dans le Middle West avec de petites formations dont le répertoire puisé dans la veine du blues et du boogie-woogie. Après un passage à Kansas City dans le groupe de Tommy Douglas qui accompagnera la chanteuse de blues Julia Lee, il se transportera à New York où il intégrera à partir de 1943 plusieurs big bands, celui de Jim McShane, on l'a dit, et celui de Lucky Belinder, et aussi en 1948 celui de Duke Ellington. Ce faisant, aux côtés des valeurs montantes du sax ténor, il participe aux jam sessions de la 52e rue en pleine effervescence et enregistre entre autres avec le trompettiste Roy Eldridge. Sa polyvalence lui permettra d'intégrer l'orchestre de Hot Lips Page qui accompagnera les chanteurs vedettes à la fin des années 40. Ainsi participera-t-il à l'enregistrement historique de Wynonie Harris, considéré comme une matrice du rock, Good Rocking Tonight. Ce sera par la suite, évidemment, très demandé. Ce sera un profil qui sera recherché par les studios, notamment la marque King, rival d'Atlantic, et il apportera sa contribution aux enregistrements des stars du blues, Esther Phillips et Big Maybell, Lonnie Johnson, sans oublier le country blues avec Bonnie Mangie. Comme beaucoup de vedettes du ténor, il sera tenté de se mettre en valeur en créant son propre groupe, et il va ainsi conquérir une notoriété qui l'amènera en France au début des années 60, où son rayonnement lui permettra de recevoir la distinction de Chevalier des Arts et Lettres. En 1990, il participe à la bande-son de Taxi Blues, qui avait reçu le prix de la mise en scène à Cannes, avec, faut-il le dire, un sax ténor comme personnage principal. On l'écoute tout de suite dans Cornbread, le titre qu'il a lancé comme leader à partir de 1948, et par comparaison, suivra un morceau de Arnett Cobb, qui donnera un petit peu la parenté entre les deux musiciens. On écoutera d'Arnett Cobb une adaptation de Herman Special qui s'appelle Top Flight. Thank you. Comme annoncé en début d'émission, nous allons conclure avec deux morceaux absolument extraordinaires où intervient Ino Jacquet. Ce sera une manière de se séparer, une manière toute provisoire. Nous nous retrouvons tous les deuxièmes jeudis du mois sur les ondes hertziennes que vous connaissez bien puisque vous êtes des familiers de CFM Radio et naturellement en podcast sur le site cfmradio.fr. Tout de suite, deux morceaux enchaînés avec en vedette les cris, les rugissements, toute l'expressivité de Ino Jacquet. Thank you.